bienvenue sur le PCC. Mon nom est Pierre Journel et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 269 qui va donc être le dernier de l'année 2011. Alors je vous préviens, ça risque d'être assez loadé au niveau de cet épisode parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Il s'est passé plein de choses en décembre, etc. Et du coup, bon bah voilà, ça va y aller. En veux-tu en voilà, on va parler de la conférence internet Le Web qui a eu lieu début décembre. On va parler de diverses découvertes d'applications justement lors de cette conférence. On va parler des rencontres. Je vais vous faire un petit peu un compte rendu de tout ça. Il y a aussi des nouveaux gadgets qui sont arrivés dans la petite maison. Bien sûr, un nouveau téléphone, donc c'est évident que je vais vous saouler avec l'iPhone 4S. Il y aura aussi deux audiobooks que j'ai enregistrés à Amsterdam, là où on est allé passer quelques jours en famille, et ça c'était bien sympa. Et il y aura aussi un feedback audio de Eric de Nantes qui va vous parler du 20 km de Paris qu'il a couru. On l'a couru ensemble, pas tout à fait, disons qu'on était deux personnes parmi les 25 000 qui l'ont couru. Et il parlera aussi de Google Music et de iTunes Match. Donc voilà là, grosso modo, de quoi ça va causer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je commence par parler de la conférence Le Web, donc qui a eu lieu les 7, 8, 9 décembre à Paris. C'était un vrai bonheur. Je vais passer au travers en fait d'une synthèse et de notes que j'ai réalisées pour partager au sein d'Heineken cette conférence. Donc, c'est très probable d'ailleurs que je publie sous forme de PDF ces notes qui seront d'ailleurs en anglais. Je tiens à le dire puisque c'était aussi plus facile pour moi de le faire en anglais de manière intégrale et pour le diffuser à l'intérieur du groupe. Donc les éléments clés, alors c'est ce qui m'a frappé moi, c'est que toutes les grandes annonces et les conférences étaient vraiment sur le thème du mobile, hein. Bon, ce qui n'était pas tellement une grosse surprise puisque le thème c'était solo mode, donc social, local, mobile. Voilà, il y avait en particulier Google qui a fait une démonstration de la prochaine version d'Android avec la version qui s'appelle Ice Cream Sandwich, voilà, je vais y arriver. J'ai d'ailleurs appris à cette occasion que les noms de code étaient déclinés par rapport à l'alphabet. Donc là c'est I pour Ice Cream Sandwich, donc le prochain il commencera par J, si j'ai bien compris. Les plateformes principales, évidemment, hein, tous les gros développements se font sur iOS, Android et Windows Phone 7. Par contre, il y a beaucoup des grosses applications phares qui cartonnent beaucoup en ce moment sur iOS qui ne sont pas portées ailleurs que sur iOS. Hein, donc en particulier Flipboard ou Instagram. Alors, il y a une explication qui est donnée par Kevin Rose, hein, qui dit que il y a seulement 10% des utilisateurs Android qui installent les applications parce qu'ils sont assez geeks pour le faire, et le reste des utilisateurs Android n'installent jamais d'applications sur leur téléphone, ce qui n'est pas du tout le cas sur iOS où là le panel est beaucoup plus large, hein. J'avais entendu des chiffres il y a quelques temps, je ne me rappelle plus la période, mais et d'ailleurs je me demande si je ne l'ai pas déjà dit le mois dernier, mais peu importe, je vais le redire, c'est que sur la même période, Apple a reversé 2 milliards de dollars aux développeurs, et donc sur la même période Android n'a versé que 200 ou 300 millions, quelque chose comme ça. Donc c'est là où on voit l'écart, là où l'argent se fait, même si les parts de marché iOS ont plutôt baissé au niveau mondial, évidemment du fait de l'arrivée de téléphones Android super performants et de Windows 7 qui fait une percée assez intéressante. Alors d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse tant que je suis là-dessus. Pour le boulot, là, j'ai eu deux téléphones en test une journée. Un Android, les deux c'était des HTC. Il y en avait un qui tournait sous Android et l'autre sur Windows Phone 7. J'ai trouvé ça, très beau, pas mal foutu, mais j'ai trouvé qu'il fallait quand même être plutôt geek pour s'y retrouver, hein. Quand on est habitué à la fluidité au niveau navigation, en tout cas au niveau, je parle pas de la performance, mais au niveau de l'ergonomie, qu'on passe sur Android, bon, c'est peut-être aussi une question d'habitude, mais on voit qu'il y a beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau bidouille, et c'est probablement ce qui plaît aux gens qui sont sur Android. Windows Phone, j'ai trouvé ça pas mal, très aéré comme interface, donc ce qui est plutôt un compliment. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de place perdue aussi. Donc, mais par contre, ils ont, faut saluer un peu le courage qu'ils ont eu à créer une interface nouvelle qui ne cherche pas à copier iOS. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, autre conclusion, autre point clé de le web, tout le monde était bien d'accord pour dire qu'il y avait une crise globale, mais vraiment, la communauté est vraiment extrêmement vibrante autour de l'Internet, et c'est vraiment fascinant de voir à quel point tous ces entrepreneurs essayent de réinventer la manière dont on va travailler, dont on travaille, dont on interagit les uns avec les autres. Et ça, quand on se fait rabattre les oreilles à longueur de journée sur le web, sur à la radio, à la télé, etc., la crise, que tout va mal, et ben je peux vous dire que passer 3 jours dans un environnement qui est bien particulier, on va pas se le cacher non plus, c'est pas monsieur et madame tout le monde, et bien ça fait beaucoup de bien, c'est très très énergisant comme conférence. Et moi, c'est vraiment un des points clés. L'année dernière, j'y étais allé un petit peu par curiosité. Là, cette fois, j'y allais pour avoir un certain nombre de rencontres, et puis aussi pour les conférences. Et j'avais vraiment des objectifs assez précis sur les interviews que je voulais faire, etc., au sujet autour d'Evernote, et aussi avoir des rencontres pour permettre de dégager un peu quelques perspectives professionnelles. Donc ça, c'était bien sympa. Ce qui m'a frappé aussi, il y a toutes les grosses sessions sont disponibles en vidéo sur YouTube de très bonne qualité. Donc il y en a beaucoup, il y en a genre une centaine environ. Moi, je vais vous en citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui m'ont particulièrement marqué. Bon, il y a évidemment la keynote d'ouverture avec Loïc Lemaire et puis Karl Lagerfeld, qui était parfois un petit peu surréaliste, parce que bon, Karl Lagerfeld n'est pas du tout quelqu'un qui est branché sur Internet. Bon, maintenant, il parle de tous ses iPads, etc., de tous ses téléphones. Enfin bon, vraiment, ça vaut le coup. Au début, on se dit, bon, ok, qu'est-ce que ça va être ce truc-là? Et puis, l'année dernière, c'était Carlos Ghosn qui avait ouvert le web, donc le boss de Renault, là non plus, là aussi quelqu'un pas particulièrement branché sur Internet, mais du coup qui apporte un autre regard, et c'est quand même assez intéressant. Donc la keynote vaut le coup. L'autre, moi, qui m'a bien plu, c'est Bill Gross, qui a donné une keynote qui s'appelait Lessons for Failures, et vraiment qui vaut le coup, parce que il explique un peu, il donne, je crois, 11 ou 12 leçons sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, en tout cas quand on veut entreprendre, là où il s'est planté, là où les bonnes idées à répéter, enfin vraiment très intéressant. Il y a eu Deb Roy qui a fait aussi une présentation des analyses de données qu'il fait avec sa compagnie Bluefin sur tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux durant les émissions de télé aux États-Unis. C'est à la fois assez fascinant et assez effrayant. Je vous conseille d'aller jeter un œil là-dessus, c'est vraiment marrant. Il y a bien sûr la keynote, enfin plutôt le dialogue avec entre Phil Libin et puis Loïc Lemaire, que moi j'ai beaucoup aimé. Bon, parce que je suis un super grand fan d'Evernote, ça c'est un secret pour personne. Et puis aussi parce que je trouve que c'est vraiment un CEO qui est à part dans le milieu de la haute technologie. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer encore une fois l'année dernière. J'avais fait une première interview qui s'était déjà très bien passée. Là, j'ai eu aussi une très bonne interview avec lui que vous pouvez écouter sur la version anglaise de la chaîne Elephant, donc sur The Elephant Channel. Et ça a été très sympa. Moi j'adore, je suis super fan. Non seulement je suis super fan du service, du produit en lui-même, mais aussi de la stratégie. Je peux vous dire qu'il est aussi sympa dans la vraie vie que l'impression qu'il en donne sur les vidéos, que ce soit celle de le web ou celle que vous pouvez, les autres que vous pouvez trouver aussi sur YouTube. Et je vous conseille aussi l'écoute du podcast officiel Evernote, qui est vraiment où on les entend discuter, que ce soit Phil Libin, Andrew Senkov, Devenberg, et puis j'oublie le quatrième acolyte. Vraiment sympa. Donc ça, c'était Phil Libin de Evernote. J'ai bien aimé aussi Marco Tempest, qui est cyber légionniste. Alors c'est assez un marrant, parce qu'il fait une sorte de parallèle entre la magie et puis des techniques de management pour dire que le risque fait partie de la créativité, que finalement la magie c'était unique, et c'est essentiellement un mélange parfois de science et puis d'habileté, et que bon, des choses qui nous apparaissent, qui apparaissaient magiques il y a quelques 10, 20 ou 50 ans, c'était juste parce que c'était une utilisation un petit peu futée d'un truc très pointu au niveau technique. Il a fait une démonstration qui est assez marrante, donc moi j'ai beaucoup aimé. Il y a eu aussi là le dialogue, l'interview un peu de Loïc Lemaire avec Eric Schmidt, donc qui est plus le CEO de Google, il est executive president ou je sais plus quoi. Enfin bon, c'est quand même un big shot de chez Google. Et la discussion qui a eu lieu, où il parle de l'Europe, de la compétition, etc. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi, je l'ai pas vu le jour même, je l'ai vu à plus tard en reprise sur YouTube. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et la dernière que moi j'ai beaucoup aimé, c'est George Colony. De Forrester, qui a parlé de trois social thunderstorms, où il parle de la mort du web, de la saturation sociale et de l'entreprise. Donc évidemment, moi, venant du monde corporate, ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est des choses que j'essaye un peu de faire avancer au sein d'Heineken, et je pense que c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont encore beaucoup de chemin à faire. Donc ça, c'était le troisième volet au niveau entreprise qui était intéressant, mais les deux autres sont aussi très intéressants et sont, je dirais, d'application plus générale sur l'internet. Donc ça a été vraiment, moi ça a été que du bonheur, hein, le web. J'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'interviews que j'ai pu faire, de témoignages sur Evernote que je vais bientôt diffuser sur la chaîne Elephant. Il y a l'interview de Phil Libin dont j'ai eu l'occasion de parler un peu plus tôt. Il y a aussi une interview du développeur de l'application Windows Phone, du client Evernote sur Windows Phone, Damien Meyers, là, que j'ai diffusé sur la chaîne Elephant, donc In French, très sympa. Et bon, enfin, tous les gens qui sont dans ma timeline, certains que j'avais jamais vus, donc c'était bien sympa. Il y a eu aussi les rencontres avec Patrick Béja et puis avec Jérôme Kaimborg de No Watch, que j'avais jamais eu l'occasion de croiser autrement que via Twitter ou Google Plus. Donc j'avais contacté Jérôme auparavant, et puis il m'a dit ouais, bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on discutera, et tellement que donc il m'a fait le plaisir, c'était assez très sympa comme rencontre, de nous interviewer avec Jérôme Chouin, alias JC Frog, et ma pomme, donc, pour parler de podcasting, de ce qu'on fait. Et ça, c'est sur Zapcast en vidéo. Et moi, je suis dans la deuxième partie, la première partie étant avec 2020 et JC Frog, et moi, je suis dans la deuxième partie, donc avec encore JC Frog et ma pomme. Donc voilà, ça, c'est si vous voulez voir un petit peu l'ambiance, etc. C'est vraiment le web, c'est ça, hein. Donc c'est des rencontres, et moi j'ai eu un peu un cocktail, je dirais. Le matin, j'allais aux grandes conférences, et puis l'après-midi, j'étais soit dans les workshops, en particulier j'en ai fait une chez Facebook là, qui était très intéressante, parce que même si je suis pas trop fanat d'un point de vue personnel, que moi Facebook je le réserve pour la famille, pour l'intime, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, il reste que ça reste une machine de guerre assez phénoménale pour les marques là, pour s'exprimer. Et il faut absolument regarder ce qui se passe sur cette plateforme. Donc il y a eu cette workshop, et puis sinon j'étais souvent à gauche à droite pour rencontrer les gens. Il y a certaines rencontres qui se sont faites de manière tout à fait improvisée via Twitter, et ça c'est bien sympa. Et c'est exactement ça l'esprit du web. Voilà, je vais pas trop non plus trop vous saouler avec ça parce que sinon je pourrais faire une heure rien que sur le web. Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi. Voilà, et je vais vous parler donc des applications que j'ai découvertes pendant le web. Alors il y a l'application Flipboard que je connaissais déjà sur iPad, mais dont j'étais relativement peu utilisateur, mais qui est très bien foutue, qui est très belle, qui venait de sortir juste le jour du web là, sur iPhone, qui est vraiment bien. Il y a une application qui s'appelle Soundtracking, qui permet de partager un peu ce qu'on écoute sur Internet et de le tweeter. Donc je trouve que c'est assez sympa. Il y avait le CEO de cette boîte qui a parlé de ça, donc du coup j'ai téléchargé et je le pratique assez régulièrement pour tweeter les podcasts que j'écoute ou de la musique. Il y a eu Currents qui est un peu le concurrent de Flipboard de chez monsieur Google. Pas mal, un petit peu moins sexy que Flipboard, c'est peu de le dire, mais intéressant. Il y a Airbnb que j'ai pas eu l'occasion de tester encore, mais qui est vraiment sympa. Et il y a Oink, alors O-I-N-K, qui permet un peu de faire des likes, mais c'est un peu le même principe que Foursquare, mais plutôt que sur des endroits, c'est sur des choses où c'est dire bon voilà, c'est pas juste dire ok, le restaurant bas de chez moi il est bien, c'est dire bon, c'est le je sais pas quoi, le foie de veau du resto côté de chez moi, il est vraiment exceptionnel, voyez. Donc c'est ce genre de truc. Je trouve le principe est assez sympa. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Je suis en train de vérifier sur mon téléphone. Et il y a eu aussi deux nouvelles applications de Evernote qui ont été lancées. Une qui s'appelle Hello et l'autre qui s'appelle Food. Hello, c'est pour prendre une photo des gens, etc., pour intégrer automatiquement votre base Evernote. Et l'autre, Food, eh bien, c'est la même chose, mais pour des plats. Donc, c'est à la fois une manière pour Evernote de montrer qu'on peut construire, fabriquer des applications sur leur plateforme et de donner d'autres services en plus pour accompagner un peu le développement d'Evernote. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des applications dont je voulais vous parler. Nous allons donc passer au segment suivant. Voilà, le segment suivant, donc je vais vous parler d'une nouvelle télé. Oui, on a acheté une télé parce que depuis 3 ans qu'on était rentré ici, on avait une télé que mes beaux-parents nous avaient prêtée, un truc qui faisait 40 cm de long, genre la télé, le tube cathodique qui pèse 30 kg, qui est plus profond que large. Bon, enfin bref, ça permettait quand même de regarder la télévision. Mais du coup, pour regarder les films, ça se faisait intégralement sur les Mac qu'on a à la maison, et il n'y avait pas vraiment de plaisir de regarder un film ensemble. Donc du coup voilà, on a acheté une télé une 107 cm de chez Samsung un beau soir. On est allé au Carrefour pas très loin de la maison, la porte de Montreuil, et on est revenu avec une télé. Et je dois avouer que c'est assez assez sympa. J'ai particulièrement été bluffé du plaisir que j'ai eu à visionner des photos en les déposant sur la Freebox, en les regardant depuis la télé. C'est vraiment assez sympa. Une petite déception, non pas par rapport à la télé, mais par rapport à la Freebox, parce que le lecteur Blu-ray marche un DVD, un Blu-ray sur trois. Il y en a un qu'on a acheté, qu'on a dû rendre parce qu'il marchait pas, l'autre qu'on a loué, qu'on a rendu aussi, et ça a finalement marché pour le troisième, c'était Cars, le deuxième volet de Cars. Et là vraiment j'étais scotché par rapport à la qualité la qualité de l'image, c'est effectivement assez incroyable, hein. Donc, je sais pas trop, je vais voir si vous avez des expériences sur des lecteurs Freebox, la Freebox Révolution, tenez-moi au courant. J'ai pas encore pris le temps là de les contacter là, parce que j'ai un peu peur qu'il y ait un truc du style ouais, envoyez-moi la boîte, on vous en envoie une autre, peut-être je me trompe, peut-être ils vous en envoient une autre et puis hop, faut mettre l'autre dans la boîte dans l'autre sens. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre ici ou là sur Twitter, il semblerait que le lecteur intégré Blu-ray est vraiment pas terrible. Et même hier soir j'ai voulu regarder La planète des singes, le film qui est sorti récemment, qu'on a eu en cadeau de Noël en DVD, et même un malheureux DVD, ça ne marchait pas. Donc preuve que la partie mécanique du lecteur fonctionne pas très bien. Donc ça c'est pas terrible. Mais enfin bon, rien à voir avec la télé évidemment. Je vais vous parler donc aussi de mon nouveau téléphone, donc l'iPhone 4S. Hein, en général, ça fait 3 ans, à peu près jour pour jour, que j'ai un iPhone et c'est mon troisième. J'ai acheté d'abord le 3G, j'ai upgradé un an après pour le 3GS et donc 2 ans après, j'ai sauté le 4 et je viens de prendre le 4S. En rempilant pour un an chez Orange, je me suis dû longuement tâter, voir si je l'achetais sec et puis je prenais un abonnement chez Souche ou alors chez En attendant que Free sorte. Bon là, on est le 31 décembre, c'est toujours pas sorti, donc peut-être ça sera l'année prochaine. Finalement, je me suis dit, bon, je vais le reprendre avec un abonnement, parce que ça me faisait un peu mal de claquer 700-800 € pour acheter un 32 Go. Donc là, bon, il me coûte quand même 300-400 €. J'ai revendu l'ancien, mon 3GS à mes parents, puis je m'occupe du support technique de la formation, ce qui fait qu'il me revient un gros 250 €. Bon, ce qui, du coup, revient assez raisonnable. Alors, évidemment, quand on fait un upgrade sur deux, on profite comme ça beaucoup d'améliorations. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment frappé le plus, hein, les trois points principaux, c'est d'abord évidemment les meilleures performances, parce qu'en passant du 3GS au 4S, là, on voit vraiment un grand saut. L'appareil photo, surtout l'appareil photo de dos, enfin celui avec lequel vous prenez des photos en général, vraiment c'est assez impressionnant de voir la différence de qualité. Et enfin le troisième point, c'est la qualité de l'écran, parce que vraiment on a une finesse qui passe vraiment une coche au-dessus, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu d'Amsterdam, mais et donc là c'était la première fois que j'avais l'occasion de partir en voyage de touriste, et vraiment c'est bon, évidemment quand vous les regardez sur une grande télé, vous voyez, vous distinguez quand même les photos qui sont prises depuis un iPhone 4S versus notre GF1, enfin je devrais pas dire notre, d'ailleurs c'est le GF1 de ma chérie, de Carole, mais c'est pas complètement ridicule, enfin je veux dire ça le fait, c'est tout à fait regardable, et c'est pas frappant. Par contre, ce qui est frappant, c'est sur les photos prises avec la caméra sur l'avant de l'appareil, enfin, ou plutôt, enfin bref, du côté écran, où là, je trouve c'est un peu dommage que ça soit de si mauvaise qualité. Alors c'est très bien pour FaceTime, qu'on a eu l'occasion de tester avec mes beaux-parents qui ont eu un iPad 2 là, pour Noël, et effectivement ça marche super bien. Par contre, bon, pour les photos, pour les autoportraits ou les petits portraits avec mes enfants, etc., qu'on peut se prendre comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, mais ceci dit, je dois prendre 95% des photos avec la caméra de l'autre côté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc évidemment, très content de mon gadget. Je l'ai pris en blanc. Il a fallu que je m'habitue un peu au côté plus carré. Je pense que du coup, la prise en main est un petit peu meilleure. J'avais un peu peur du côté vitre, etc. C'est vrai que ça fait quelque chose qui est très beau. Bon, pour l'instant, il a l'air de bien supporter. Et surtout, il supporte très bien, il supporte mieux les traces de doigts. Alors, c'est un nom savant en anglais que je ne saurais vous dire, mais visiblement, il est beaucoup moins poisseux, beaucoup moins facilement que le 3GS. Hein. Donc, preuve qu'il doit probablement y avoir un traitement au niveau de la glace en avant et en arrière pour avoir ce fini qui reste assez propre, même si on n'a pas toujours les mains dans un état impeccable. Voilà, je vous propose d'écouter tout de suite les deux audiobooks enregistrés à Amsterdam et on se retrouve de l'autre côté. C'est parti.
Alors bonjour à tous et à toutes, un petit audiobook en direct de Amsterdam où nous sommes pour quelques jours entre Noël et les jours de l'an. On est le 26 décembre. On est arrivé hier soir par le Thalys, là, 3h20 de voyage, sans problème. Notre hôtel est tout proche de la gare, à 10 minutes, un quart d'heure à pied. Voilà, vous entendez sans doute derrière le bruit du tramway. On est sur la place d'Âmes, où il y a en particulier Madame Tussaud, etc., des hôtels. On vient de prendre un café tranquillement. Et puis là, on va faire le kit du touriste complet, à savoir la petite promenade dans les canaux, dans un bateau. Ensuite, la promenade en autobus, hop on, hop off, là. Et puis, voilà, moi, j'avais eu l'occasion de venir il y a quelques semaines pour le boulot. J'avais trouvé ça bien. Et comme on a commencé cette tradition l'année dernière de faire un voyage avec les enfants entre Noël et le jour de l'an, et ben on continue. Donc l'année dernière c'était Londres, cette année c'est Amsterdam, et puis on avait un peu peur de se retrouver avec un peu un temps de chiottes. Et en fait là il fait quoi, 10-11 degrés, et là il y a le soleil qui vient de se découvrir, donc on va bien profiter de cette superbe capitale. À vous les studios. Alors à nouveau, petit audio bout en direct d'Amsterdam. Cette fois au Hard Rock Café, c'est en train de devenir une tradition, parce que je pense que j'en avais déjà fait un à Prague quand on y était allé et que j'avais couru le marathon là-bas sous un cagnard infernal. Donc là on n'est pas dans le cagnard, on est plutôt on est plutôt dans le caillage de Meule, dans la fraîcheur du Nord, Salonneur. Mais on a eu un beau soleil pour faire une petite croisière sur les canaux, et c'était bien appréciable. Mais c'est un soleil qui ne chauffe pas, effectivement. Alors ma chérie, est-ce que tu es contente d'être à Londres? Parce que j'ai donc un invité très spécial sur à Amsterdam. Je me trompe, c'est parce que l'année dernière on était à Londres, là cette année on est à Amsterdam, pardon. Donc, est-ce que tu es contente d'être à Amsterdam, ma chérie?
Bah, très contente, parce que c'est mon idée. Alors, voilà.
D'accord.
Bah, oui.
D'accord.
Donc, je suis bien contente. À date, tout va bien. Il fait frais chou, mais on résiste.
Voilà. On a fait un petit pique-nique.
On est les seuls touristes à faire des pique-niques dans les parcs Amsterdam en plein mois d'hiver, mais tout va bien, on résiste.
C'est vrai que les gens nous regardaient un peu bizarrement à faire un pique-nique dans le parc. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il faisait genre 5 degrés, on était en plein vent. Je vois vraiment pas pourquoi, parce que c'est une excellente idée. Donc du coup, voilà, nous sommes au Hard Rock Café pour nous réchauffer, en train de siroter un jus de chaussette pas si mal, finalement. Correct, disons.
Léger,
voilà, ça va pas nous garder éveillés toute la nuit. Et voilà, et il y a des guitares au mur, donc ça c'est toujours pas mal. Voilà, à vous les studios.
Voilà, voilà, j'espère que ces deux audiobooks d'Amsterdam vous auront donné l'envie d'aller visiter cette capitale européenne vraiment bien, bien sympathique, y compris au moment de Noël, alors que c'est pas forcément au niveau météo l'idéal. On s'est un petit peu caillé les meules, en particulier le troisième jour. On a fait 2 heures de queue pour visiter la maison d'Anne Frank. Enfin, il faut dire qu'on avait assez mal joué, parce qu'on aurait très bien pu y aller tôt le matin, parce que c'était à 200 mètres de l'hôtel, mais bref, enfin bon. On a losé big time. Du coup, il faisait un froid, un froid bien, bien intense avec beaucoup de vent. Du coup, on s'est vraiment gelé grave en faisant la queue. Bon, ceci, la maison d'Anne Frank vaut vraiment le détour. C'est un devoir de mémoire qu'il faut faire. Je suis resté un peu sur ma faim parce que. Bon, on rentre dans cette maison, c'est pas mal décrit, mais je trouvais ça manquait un petit peu d'explications, ou de, ils auraient pu le mettre un petit peu plus en valeur, hein. Mais bon, ceci dit, quand on a passé 2 heures à attendre dehors, forcément on voit peut-être les choses d'une autre manière. Par contre, sinon vraiment une magnifique ville. On a visité le musée Van Gogh là, qui est magnifique là, qui est évidemment une collection assez incroyable, et le Rijksmuseum qui est en travaux actuellement, mais il y a quand même une aile qui est ouverte avec les masterpieces, comme ils disent, puisque c'est un peu c'est une sélection, et il y a vraiment des choses assez incroyables, des Rembrandt, des Vermeer, etc. Enfin, au niveau peinture, c'est pas mal. On avait pris un guide audio là qui était bien fait. Et puis, bah, sinon, c'est pas mal promener à gauche à droite. Hein. Comme j'ai dit, on a fait des trucs classiques, promenade en canot, en bus, et on a pas mal marché à gauche, à droite. Donc voilà, c'était vraiment bien sympa. Voilà, nous allons donc maintenant passer au segment suivant. Et le segment suivant, voilà, je suis en train de retrouver mes petites notes que j'avais un petit peu égarées. Eh bien, on est rendu au moment où je vais passer le micro donc à Eric de Nantes qui va vous causer dans le poste. C'est parti, à toi Eric.
Salut Pierre, je voulais te faire un petit feedback sur ton podcast d'octobre. Bah, il est temps, hein, mais je suis un peu à la bourre, mais voilà. Tu parlais des 20 km de Paris, auquel effectivement j'ai pu participer. C'était ma première course depuis bien des années. Alors j'ai beaucoup aimé faire la course, l'ambiance, la musique au départ, les quelques 25 000 participants. J'ai pas trop aimé le temps, ça t'en as parlé, c'était exécrable. D'ailleurs j'ai attrapé la crève à l'issue. La montée, tu parlais de la montée au départ de cette course, m'a pas trop gêné. Mais en effet, il y a des endroits qui étaient vraiment impraticables. Je pense notamment à deux endroits. Il y a un virage dans le bois de Boulogne où, sincèrement, on ne passe pas dans la foule. Et après, il y a un embranchement pour prendre les quais de Seine qui est trop étroit. On ne passe pas donc, dans la foule. Hein. On est ralenti, on piétine. Et on peut vraiment se casser la figure sur les morceaux d'orange, toutes les bouteilles de plastique qui traînent par terre. Donc, en cela, je te rejoins sur le parcours des 20 km de Paris. Bon, il est bien, il est joli, mais certains passages sont mal prévus. Voilà. Premier ravitaillement aussi, j'ai noté qu'il était assez moyen. C'était pas génial. Donc, la course, moi j'adore ça. Donc là, j'ai eu pas mal de virus pendant cet automne, donc je me suis arrêté de courir jusqu'au mois de janvier où je vais reprendre. J'ai vraiment hâte. Je crois que ma distance favorite pour l'instant, c'est 10 km. Je suis bien à 10 km. Donc courir des 20 km, ça me va bien aussi. Je suis pas prêt à courir le marathon de Paris, par contre. Le copain avec lequel j'ai couru les 20 bornes m'a posé la question. Lui s'est inscrit, mais moi je ne vais pas le faire cette année. Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet, si tu me le permets. Un sujet de geek. C'est Google Music. T'en as parlé, moi je l'ai essayé, j'ai monté toute ma musique là-dessus, ça marche super bien, l'appli est agréable. Puis c'est vrai qu'on peut avoir en fait en gros l'ensemble de sa musique tout le temps en gros, hein, du moment qu'on a son iPhone. Mais voilà, depuis deux jours ou trois jours, iTunes Match est arrivé, donc j'ai souscrit, ça fonctionne. Bon, au début c'était pas trop ça, mais ça fonctionne. Toute l'arborescence là, des albums et des morceaux descend sur les divers iOS, les iPhone, l'iPad, l'iPod Touch, les autres Mac, ça fonctionne. Sauf que sur deux iPhones, j'ai centaines d'albums sur plus de 500. Donc il n'y a pas un rafraîchissement total qui se fait. Et j'ai remarqué qu'en rajoutant un album, eh bien, il n'y avait pas le rafraîchissement sur les iPhones, celui d'Estelle et le mien, alors que ça se faisait bien sur tous les autres environnements. Va comprendre. Techniquement, dans la voiture, ça marchait bien en streaming. On peut bien sûr télécharger le morceau qu'on veut ou l'album qu'on veut, c'est le sien de toute façon. Pour l'effacer après, puis on garde la version cloud quand on efface les morceaux qu'on avait précédemment téléchargés. Donc c'est bien, c'est pratique, parce que quand on a une bibliothèque en fin de compte de 70 gigas, sincèrement, ça passe pas sur les iOS, quoi. Même à 64 gigas, ça c'est pas assez. Donc iCloud, le nuage, c'est bien. On peut faire redescendre ce dont on a besoin pour l'écouter. Donc très très pratique, je conseille vivement, surtout que les problèmes rencontrés, la descente d'arborescence de musique, c'est des problèmes de soft, rien de grave. Ça va être polissé comme il faut là, dans les semaines qui viennent, dans le mois qui vient. Pas de panique, ça va rentrer dans l'ordre. Voilà mon cher ami pour ce feedback de la fin d'année. Et je te ferai encore un feedback quand j'aurai repris la course. Je fais la bise à tous les auditeurs du PCC et à toi en particulier. À bientôt.
Merci beaucoup Eric de ce feedback audio. Hein, Et puis, bah, merci d'avance pour le prochain que tu vas m'envoyer en janvier. Hein. Tu t'invites quand tu veux dans le PCC pour partager des expériences, que ça soit pour parler de course à pied, de trucs de geek, peu importe, tous les sujets qui nous passionnent, hein, de la photo à la course à pied, en passant par la guitare, la musique, les trucs sur Internouille, le nouveau gadget à la mode. Bref, je te réitère cette invitation, évidemment que j'ouvre à tous les auditeurs, si ça vous tente de participer et d'envoyer des feedbacks audio. C'est pas très compliqué, vous avez tous des iBidules, que ce soit des iPhones ou autres, même sous Android et sous Windows Phone, je suis sûr qu'il y en a, sur PC ou Mac, il y a aussi tout ce qu'il faut, et il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas là à causer dans le poste, vous aussi. Donc, voilà, et quoi dire d'autre? Oui, 20 km de Paris, voilà, je pense que j'en avais déjà parlé, je ne vais pas recommencer là-dessus. Moi, je ne suis pas passé sur iTunes Match, bon, parce que j'en ai pas vraiment l'utilité actuellement. Je suis passé sur, enfin j'ai installé Google Music, mais en fait bon, ça tourne en background sur le Mac là, donc ça upload des fichiers encore. Je sais pas si ça upload, parce que je trouve que le nombre augmente pas beaucoup. Je suis à 8962 chansons et j'en ajoute assez régulièrement, parce que je reçois quand même beaucoup de CD avec la chaîne guitare. Mais je m'en sers pas. Je m'en suis servi une fois ou deux du boulot, histoire de voir si je pouvais streamer. Bon, ça fonctionne. Ça coupe un peu des fois qu'on est à distance, donc voilà, pour l'instant j'avoue que bon, j'ai quand même un téléphone qui a 32 gigs, donc il y a quand même de quoi faire, et quand je suis en train d'écouter des choses, 9 fois sur 10 je suis en train d'écouter des podcasts, donc du coup j'ai moins ce besoin là, mais c'est quand même intéressant d'avoir un retour sur expérience de iTunes Match. Voilà, bah écoutez, je suis en train de faire le tour de voir si j'ai oublié quelque chose. Non, je crois que ça va ressembler à ça pour cette fois. Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez le chemin, lepcc.net, si vous voulez laisser un commentaire sur le blog, @pjournal, si vous voulez dialoguer avec moi sur Twitter, je suis toujours ravi de causer dans le poste. Si vous êtes passionné de guitare ou de musique en général, et ben, je ne peux que vous encourager à aller découvrir lachaîneguitare.com ou la version anglaise theguitarchannel.biz pour découvrir des musiciens, leur musique, etc. Si vous êtes branché Evernote, eh bien, allez écouter chaîneelephant.net ou elephantchannel.net pour la version in English avec les interviews dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis, il y a toujours ce bon vieux email pjournal@gmail.com. Voilà, j'ai pas fait de rétrospective 2011 parce que, bon, en fait, ça me casse les couilles d'en faire, donc je vais pas en faire. Mais je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour 2012. Faites gaffe à vous, continuez à bien écouter tout plein de podcasts, courez si vous avez envie de courir, faites des photos, faites de la musique, écoutez de la musique, enfin bref, santé, gloire et fortune, que du bonheur. Voilà, allez, ciao, bye bye.